Et voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. 30 millions d'euros et des caméras de surveillance pour tenter de faire baisser les violences dans les hôpitaux de Paris. C'est le plan dévoilé par Martin Hirsch, le patron de l'APHP. En 2016, 70 plaintes ont été déposées pour des agressions, notamment aux urgences où les tensions sont quotidiennes, Farida Noir.
Injures, coups, le personnel soignant de l'APHP est confronté quotidiennement à la violence des patients. Pour le protéger, ce plan de 30 millions d'euros sera étalé sur 3 ans avec un investissement conséquent sur la vidéosurveillance. Arnaud Poupard est le conseiller pour la sécurité à l'APHP.
On va avoir une hausse de 40% des caméras. Aujourd'hui, nous sommes environ à 1200 caméras. On devrait dépasser les 1500 caméras à la fin de ce plan parce qu'on s'est aperçu que là où on implantait, ça prévenait les violences, mais également une fois que des faits malheureusement ont pu se commettre, ça permet de faciliter l'identification des auteurs. On prend par exemple un service de l'hôpital Beaujon qui a été touché récemment par des violences. Eh bien, dans la zone de soins, à la demande du service et des soignants, on va implanter des caméras et du contrôle d'accès. Un autre exemple, dans un autre site de l'APHP qui a vécu des violences à l'entrée, on va refaire la totalité de l'entrée au site d'Avicenne, en Seine-Saint-Denis, pour pouvoir améliorer l'accueil. Par exemple, si vous prenez une banque d'accueil, si vous la faites un petit peu plus haute et un petit peu plus profonde, ce sera bien plus difficile de porter un coup.
Des caméras dites intelligentes seront aussi expérimentées. Elles permettront à l'hôpital de détecter des comportements suspects, des intrusions dans des zones interdites ou des bagarres, par exemple.
Déjà sous la menace d'autres dossiers judiciaires, Nicolas Sarkozy sera-t-il jugé dans l'affaire Big Malion ? L'ancien président de la République conteste aujourd'hui son renvoi au tribunal pour les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012. Face à une vague de condamnations dans le monde après le bain de sang de lundi à Gaza, Israël a pu compter une fois de plus hier sur le soutien des États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU. Washington a bloqué toute demande d'enquête indépendante sur les violences meurtrières qui ont fait 59 morts parmi les Palestiniens qui marchaient vers la frontière avec Israël pour protester contre le déménagement de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Les États-Unis imités aujourd'hui par le Guatemala. Elia Bergel, c'est un empressement à s'installer à Jérusalem, à imiter les États-Unis qui s'explique par des liens historiques entre le pays d'Amérique centrale et Israël.
Israël et le Guatemala sont presque des amis d'enfance. La relation entre les deux pays tire ses origines en 1948, la date de création de l'État hébreu. À l'époque, le Guatemala est le deuxième pays à reconnaître Israël. Le Guatémaltèque Jorge García Granados présidait alors le Comité spécial pour la Palestine. Le diplomate a œuvré de toutes ses forces pour la solution à deux États. Le même García Granados a ensuite été le premier ambassadeur à s'installer à Jérusalem en 1956. Israël a également soutenu militairement le Guatemala dans les années 70 et 80 pendant la guerre civile en fournissant des armes et du personnel d'encadrement au moment où le président américain Jimmy Carter prenait justement ses distances avec le régime répressif d'Eugenio Laugerud Garcia. Depuis, les liens entre les deux pays ne se sont pas distendus. C'est dans l'État hébreu que l'actuel président du Guatemala, Jimmy Morales, s'est rendu en premier en 2016 après son élection. Mais c'est peut-être davantage aux États-Unis que Jimmy Morales essaye de plaire actuellement. Le Guatemala a reçu en 2016 297 millions de dollars d'aide des États-Unis. Par ailleurs, il y avait en 2017 723 000 Guatémaltèques présents illégalement sur le sol américain. Eux auraient beaucoup à perdre d'un durcissement de la politique de Donald Trump vis-à-vis de leur pays d'origine.
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur ne veut plus subventionner des films qu'elle juge trop politiques et notamment un documentaire réalisé par Pascal Laurent et produit par Denis Robert qui raconte le destin d'une ville, Cogolin, passée sous les couleurs du Front National. Ce documentaire vient de se voir retirer sa subvention régionale de 20 000 euros. Une tribune parue dans le journal Le Monde est signée par plus de 360 noms du cinéma français, dont Bertrand Tavernier, Robert Guédiguian, Cédric Clapiche ou encore Costa Gavras, change rien, la région persiste au risque de faire voler en éclats tout le système de financement du film documentaire en France. C'est ce qu'explique le producteur et écrivain Denis Robert.
En fait, si en France on a une telle liberté de création, c'est grâce à un mode de financement très particulier qui associe à la fois un financement public avec le CNC, le Centre National du Cinéma, et les régions. Et c'est cette double aide, plus évidemment les diffuseurs, qui permettent aux films d'exister, quoi. Et d'une manière générale, quand on demande une aide des régions, les élus qui ne sont pas des spécialistes de l'audiovisuel et de ces questions-là, ont un collège d'experts qui décide de quel film sera financé par la région ou pas. Et donc nous, la commission a donné un avis très favorable. Et donc à une semaine de la diffusion du film, j'ai eu un coup de téléphone de la région PACA qui m'a annoncé que, fait extraordinaire, les élus avaient décidé de retirer mon film au prétexte que c'était un film politique. Et tous les films sont politiques. Derrière, il y a une volonté culturelle dans cette région où il n'y a plus que de la droite et de l'extrême droite de faire des films qui soient non politiques. Ça leur donne le choix de dire si un film les gêne politiquement ou ne les gêne pas politiquement. C'est la porte ouverte à toutes les censures.
Le producteur et écrivain Denis Robert, joint par Cécile de Kervas-Doué. Dossier complet à suivre dans le journal de 18h ce soir. Le temps de ce mercredi 16 mai marqué par des averses à l'est du pays. Un temps plus calme et plus ensoleillé partout ailleurs. Comptez de 15 à 20 degrés au meilleur de la journée près de la Manche, au sud de la Garonne et en Corse, 19 à 25 dans le reste du pays. C'est la fin de cette édition réalisée avec François-Charles Domergue. Prochain journal de la rédaction, midi et demi avec Antoine Mercier.